Popcorn et Banjo, la seule émission de cinéma qui diffuse
exclusivement de la musique country
avec Charles Lemoine
et Thomas Révoy.
Salut à tous, c'est Popcorn et Banjo, la seule émission de cinéma qui diffuse exclusivement de la musique country. Popcorn et Banjo s'inscrit dans le créneau Vive le cinéma de Aligre FM 93.1. À ma gauche, Charles Lemoine, superviseur musical, journaliste et photographe. Salut Charles.
Salut Thomas.
Et moi-même, Thomas Révoy, réalisateur, journaliste et photographe. Comme vous le savez peut-être déjà, nous sommes tous les deux cinéphiles et nous croyons autant dans le support physique que dans le dématérialisé. C'est avec la voix émue que nous célébrons une année de podcast. Et oui, notre petit bébé de Popcorn et Banjo est déjà à sa 12e émission. Pour fêter ça, nous reviendrons sur un paquet de sorties récentes. Alors récentes et, on va dire, jusqu'au mois d'août dernier, on s'accorde un petit mois pour les vacances. On va discuter donc de valeurs sentimentales, de Escape from the 21st Century, de A Useful Ghost, Sirat, Weapons. Ensuite, côté musique, nous écouterons Jimmy Buffett et son Margaritaville et Johnny Paycheck avec son légendaire Georgia and a Drug. Enfin, en fin d'émission, nous reviendrons le temps d'une petite pastille sur un événement Carlotta Film. Et comme souvent avec Carlotta, si c'est un événement, eh ben c'est aussi un événement mondial. La ressortie en Blu-ray 4K du classique et légendaire film pour adultes, comprendre film pornographique, Café Flèche. Popcorn et Banjo, la 12e, c'est sur Aligre FM 93.1 et c'est parti.
1, 2, 1, 2, 3, 4.
Quand la musique s'arrêtera, ramasse ton pistolet.
Tâchez d'éviter ces explosions d'injures et de mots orduriers qui ne peuvent que gâter une affaire.
Je n'ai jamais vu quelqu'un tuer un poisson comme vous l'avez fait.
Alors vous n'avez jamais rien vu.
Il y a quelques semaines sortait donc le nouveau film de Joachim Trier, grand cinéaste s'il en est, en tout cas très réputé dans le monde critique. Il s'agit donc de Valeurs sentimentales. Valeurs sentimentales, c'est l'histoire d'une famille déchirée, notamment dans son rapport père-fille, un père alcoolique et violent, et deux jeunes sœurs qui se sont très rapidement... qui ont été éduqués par leur mère, en fait. Et puis, quand la mère meurt, le père revient dans leur vie. C'est un cinéaste un petit peu à l'arrêt, mais qui était très réputé, qui a eu sa grande époque, et qui essaye absolument de tourner son nouveau film. Et pour tourner ce nouveau film, il aimerait que l'une de ses deux filles joue le premier rôle du film. Il faut savoir que cette fille est une actrice, notamment de théâtre, très connue. Et s'ensuit, évidemment, tout un jeu de... comment réussir à la convaincre. Et puis, au fur et à mesure, on découvre tous les secrets de famille liés entre eux, quoi.
Je dois avouer que j'aime pas beaucoup le cinéma de Trier. En tout cas, j'ai vu Oslo 31 août, j'ai vu un 12 chapitres récemment. Donc, vraiment...
Avec la même comédienne.
Oui, qui est...
Valeur sentimentale.
Pour le coup, c'est vraiment un très bon directeur de comédien et comédienne. Mais j'avoue, je n'accroche jamais à ces films. Et là, je dirais même que je trouve que Valeurs sentimentales est vraiment le pire de ce que j'ai vu, en tout cas pour le moment. Et ça commence par une écriture des personnages et un scénario que je trouve relativement assez pauvre, finalement, pour un film qui fait 2h30. J'ai l'impression qu'on comprend assez vite les tenants et aboutissants de la relation au bout d'à peu près 20 minutes de film. Et après ça, je n'ai pas l'impression que le réalisateur nous donne du grain à moudre pour avoir une réflexion justement sur la place du père, sur qu'est-ce que ça veut dire être l'aîné, qu'est-ce que ça veut dire d'avoir de jalouser une sœur. J'ai l'impression qu'il survole un peu tout ça dans une espèce de mélodrame je trouve peu d'empathie finalement avec son personnage féminin et beaucoup trop d'emphase sur le père, avec une espèce de fausse révélation finale et qui finalement, je trouve, relève plus du Deus Ex pour dire regardez, voilà,
voilà ce qui va se passer entre eux et voilà ce qui s'arrange ou ce qui s'arrange pas.
Et je trouve ça vraiment mais petit quoi en termes de d'écriture vraiment de scénario. Et après peut-être qu'on parlera un peu plus mise en scène aussi, mais j'ai pas été émerveillé par la mise en scène à part vraiment effectivement des plans dans la maison qui sont que je trouve vraiment très très beaux parfois. Mais toi Thomas, t'en as pensé quoi du coup?
Moi je suis un peu plus en un peu plus en demi-teinte. Moi je trouve qu'il y a des choses sublimes, vraiment très très belles. Il y a des moments. La direction d'acteur, bah ça tu l'as dit, mais je la trouve vraiment très très juste. Stellan Skarsgård qui joue donc le père, il a toujours ce côté extrêmement inquiétant. On sent qu'il peut basculer dans la violence. Il a une espèce de comme ça d'aura. Il est difficile à cerner dans ses mouvements, dans ce qu'il va faire. Et je trouve que c'est très 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 bien joué. Il est toujours sur le fil. Et j'aime beaucoup la relation avec les deux sœurs. J'y crois beaucoup. Il y a une très jolie scène qui est la scène de l'affiche du film où elle discute. Il y a toute une discussion sur le twist du film et je trouve ça hyper hyper touchant. En revanche, là où je te suis, c'est que effectivement il n'y a pas beaucoup de surprises sur le scénario. On comprend très vite de quoi il s'agit. La fin est assez décevante en vrai. Elle a pas beaucoup de sens quand on comprend un petit peu les trajectoires des personnages.
Franchement, c'est tourné comme une sitcom, je trouve.
La fin est pas dingue, ouais. Mais après, moi, je suis un peu moins radical. Il y a vraiment des choses qui m'ont touché. Et je trouve que il y a un tel niveau de direction d'acteur que quelque part ça dépasse aussi le film. En revanche, il y a par exemple tout le segment à deux. En tout cas, ça, le résultat, pour moi, c'est difficile presque de l'enterrer parce que il y a un tel jeu d'acteurs que il y a quelque chose de puissant quand même dans ce film à ce niveau-là. Je trouve qu'il y a tout un segment à Deauville que je trouve pas nécessaire du tout, qui est très bizarre même visuellement. J'aime beaucoup l'ouverture du film avec ses plans de la maison et la voix off qui est
très jolie.
Et ouais, qui donne comme ça tout le vécu de cette famille à travers la maison, comme si la maison était un personnage, avait des yeux et donnait un peu son avis sur ce qui s'était passé entre ces murs. Donc moi je trouve qu'il y a des choses vraiment puissantes, mais effectivement il y a quelque chose de bizarre dans le montage, dans l'écriture. Parfois on est perdu, il y a des scènes qui sont très peu crédibles et d'autres qui sont extrêmement justes. Mais en tout cas, découverte, moi je connais évidemment Joachim Trier de nom, mais j'ai rien vu de ce cinéaste. Et pour le coup, j'ai vraiment envie de le voir parce que Renate Reinswe, j'espère ne pas écorcher son nom, je l'ai trouvé énorme. Et j'ai beaucoup, beaucoup aimé aussi celle qui joue le personnage de la sœur, Inga. Alors, je suis en train de lire, hein, Ilps Dotter Lilleas. Et par exemple, une autre scène qui m'a beaucoup plu, c'est le dîner avec le père, les deux sœurs et le mari de l'autre sœur. Et quand tout d'un coup, le père donne une leçon à sa fille d'une violence et lui dit « Mais toi, qu'est-ce que tu crois? Pourquoi t'as pas de gamin à ton âge? Pourquoi tout le monde s'en fout? T'es juste une meuf aigrie dans la vie et tout. » Donc, je trouve qu'il y a quand même des passages qui sont assez justes dans les relations familiales toxiques. Mais effectivement, il y a une problématique d'écriture plus globale, quoi.
Oui, c'est surtout, je trouve c'est seulement comme dans quelques séquences, en fait, on voit effectivement ce père qui pourrait un peu déraper. Mais finalement, en fait, il met tellement de l'accent sur l'empathie du personnage que le personnage n'est même plus trouble. T'as plus l'impression qu'il a, en fait, c'est deux personnes différentes, mais pas dans un sens de dualité, pas dans un sens d'opposition, en fait, d'être. On a juste l'impression que selon les séquences et selon les moments où il veut raconter quelque chose, il va switcher la mentalité du personnage. J'ai pas l'impression de voir quelque chose de vivant, mais justement quelque chose de presque synthétique, en tout cas avec ce film-là. Et effectivement, je pense sincèrement que les acteurs sauvent vraiment par j'adore Skarsgård, j'adore les actrices qui ont un nom très compliqué à dire, donc je ne vais pas les répéter. Mais sincèrement, oui, je crois que sa direction d'acteur sauve quand même une grande partie d'un scénario qui est, en global, je trouve assez bancal.
Moi, pour le coup, je trouve qu'il y a des choses à... Je pense que c'est un film intéressant à voir. Il y a quand même des choses à défendre, vraiment. Une autre scène que j'aime beaucoup, tu sais, c'est quand Elle Fanning annonce à Skarsgård qu'elle ne fera pas le film.
Ouais, moi, je trouve ça catastrophique.
Ah, moi, j'aime bien, vraiment. J'aime bien cette scène. Je la trouve assez juste.
Et assez juste par rapport à quoi, du coup
Je la trouve bien dans le dialogue, quoi, quand il lui dit que c'est pas elle le problème, en fait. Ça, je trouve ça assez bon et que... Enfin, je trouve ça assez beau. Je suis moins fan de la chute de cette scène quand il se retrouve seul, mais qui est peut-être un peu plus attendue, mais j'aime bien leur conversation. Je trouve qu'il y a des moments... Il paraît quand elle parle à la... Justement, quand elle parle à la fille, quand Elle Fanning parle à la fille au théâtre, tu vois. Mais pour moi, c'est vraiment un espèce de puzzle avec effectivement des scènes un peu attendues, notamment l'ouverture aussi, où cette actrice, donc l'actrice de Julien en 12 chapitres, qui donc le premier rôle de Valeur Sentimentale aussi, est sur scène au théâtre et joue une pièce contemporaine. Et pareil, c'est un peu attendu sur l'idée qu'on se fait d'une pièce contemporaine. Ça ne va pas chercher très loin après. Mais parallèlement à ça, il y a des trucs très profond, quoi, notamment ce dialogue entre ces deux sœurs. C'est assez étonnant.
Non, je trouve que le rapport entre les deux sœurs, effectivement, est plutôt, très beau, plutôt joli, mais encore une fois, est-ce que c'est plus une question de physicalité qu'elles ont entre les deux, encore une fois, de direction d'acteur, que vraiment le dialogue en lui-même? Et moi, je trouve que la séquence, justement, avec Skarsgård que tu disais, moi, j'ai l'impression, en fait, le problème que j'ai, c'est tu piges assez vite qu'en fait, il caste la meuf, mais pour des raisons de merde.
Oui, bien sûr.
Parce qu'en fait, il signe avec Netflix pour faire le film, alors que le mec, il vient du film d'auteur. Enfin bon, il y a tout un truc où tu fais, bon, ça pas... Tu comprends pas très bien le délire, mais tu sens qu'il signe avec elle parce que en fait, c'est plus par nécessité qu'autre chose.
Et donc... Oui, et puis pour emmerder sa fille aussi.
Ouais, mais donc, en fait, du coup, tu... Oui, mais parce que de toute façon, il veut faire le film.
Oui, mais c'est aussi une manière de
faire sa fille. Oui, mais le mec est tellement méga... Oui, mais le mec est tellement méga... C'est là où je trouve que la dualité du personnage ne marche pas, justement, tu vois. Ou d'un côté, il est mégalo, en même temps, il aime sa fille, en même temps, il est toxique. Mais en fait, il n'y a rien...
On ne sait pas trop s'il aime sa fille.
Mais il n'y a rien qui se mélange.
Ouais.
Mais à la fin du film...
Je ne pense pas qu'il aime sa fille, c'est juste qu'elle lui permet quelque chose. C'est toute l'ambiguïté du
film. Non, moi, je pense que c'est... En fait, le seul moyen qu'il a d'aimer sa fille, c'est par le cinéma, parce que c'est toute sa vie.
Ouais, alors
c'est pour ça qu'il
peut-être. En tout cas, ça.
On va faire une section spoil là, en fait, tout de suite.
Ouais, non mais.
Mais en gros, et cette séquence-là, justement, moi, elle me plaît pas parce que j'ai l'impression que c'est tellement cousu de fil blanc parce que dès le début, tu comprends qu'en fait, c'est pas la bonne meuf et tu comprends qu'elle est à côté de ses pompes, l'actrice, dans ses choix de trouver un accent et enfin, il y a tout un truc de. Tu fais mais pourquoi t'es là? Et en fait, le dialogue quand il arrive, tu fais bah oui, mais en fait, bande de débiles, ça fait en fait. 40 minutes que ça se voit que c'est pas beau et que t'es pas là pour ça. Donc moi, je trouve ça vraiment très artificiel, en fait, cette séquence, par exemple. Ça veut pas dire que le jeu n'est pas bon et ça veut pas dire que l'interaction entre les deux n'est pas bonne, mais encore une fois, c'est le jeu, pas l'écriture. Enfin,
ouais, mais...
Cette impression-là, en tout cas.
Ouais, ouais. Et en même temps, c'est... La finalité de cette scène, c'est de se demander si la fille va accepter de jouer dans le film de son père. Donc, on sait bien que lui, il faut qu'il avance. Enfin, tu vois ce que je veux dire? On sait bien que Elle Fanning, elle va sauter à un moment ou à un autre, mais comment ça se passe et comment c'est écrit, je sais pas. Moi, je trouve ça pas mal.
Mais, ouais, mais du coup, la séquence où la fille décide d'où ou non de jouer avec son père, qui est le truc un peu
ouais.
Du film, bah, la séquence, je la trouve éclatée, tu vois. C'est parce que
pour le coup, je m'en souviens plus vraiment.
Ah, c'est vrai.
Ouais, mais toi, ça m'a pas marqué.
C'est une catastrophe de crétinerie, quoi. Je saurais pas comment faire sans spoiler, mais il y a un vrai problème de presque de Deus Ex, en fait, dans une relation qui se veut complexe en plus, quand même, qui se veut quand même assez dure dans le temps, avec beaucoup d'aigreur, beaucoup de passion en plus. Quand même, la fille, du coup, elle est devenue actrice. Enfin, ça veut dire quand même quelque chose. Ça a du poids, ça a des conséquences quand même dans une relation familiale, tout ça. Et toi, tu as vu plus de choses que moi là-dessus, que tu as plus aimé. Mais dans cette séquence où elle décide oui ou non de suivre son père dans l'aventure et du pourquoi elle le fait.
Pour le coup, je la trouve très belle, cette
séquence. Ah
ouais? Ah ouais, vraiment. Entre les deux sœurs, ce qui...
Non, mais entre les deux sœurs, ok. Mais en fait, ouais. Oui, mais sauf qu'en fait, après, elle lit son scénar.
Oui, elle lit le scénar.
Mais en fait, le truc, c'est qu'elle n'a aucune interaction avec son père. C'est juste de loin, c'est juste loin pendant tout le truc. Et ils ont une relation pourrie. Mais
ouais,
pourrie,
ouais.
En fait.
Ouais.
La meuf, ça fait 35 ans qu'elle vit. Ça fait 35 ans avec son père, c'est compliqué. La meuf, elle a essayé de se suicider, etc. Et en fait, elle lit le scénario et elle fait oh « Mais papa, en fait, il avait tout compris. » Et tu fais « Ah bah non, meuf. En fait, c'est pas possible de, en lisant simplement un scénario, alors que la relation avant était éclatée, d'être bouleversé à ce point et de dire « En fait, mon père, en quelque sorte, est un mec sensible, bien compréhensible.
C'est pas ce qu'elle
comprenait.
Dit. Hein,
ah bah,
c'est pas ce qu'elle dit, c'est ce qu'elle réalise. Que...
Bah non, elle réalise que c'est la phrase qu'elle dit. Elle dit oui, je ne savais pas que papa me connaissait autant.
Oui, mais ça ne veut pas dire qu'elle le trouve bien. Ça veut dire qu'elle comprend tout d'un coup que... Moi, pour le coup, je trouve ça assez juste. C'est-à-dire que le père, qui est très loin, il a quand même compris le mal-être de sa fille, tu vois.
Bah parce qu'encore une fois, en fait, l'amour, c'est ce que je te disais par rapport à la fin, le seul amour qu'il arrive à porter, c'est à travers le cinéma. C'est pour ça qu'il aime la séquence avec sa fille dans le train. C'est pour ça qu'à la fin, il se retrouve sur un plateau. C'est pour ça que la fille est actrice et qu'il demande à sa fille, tu vois. Toute la relation du père ne se fait qu'à travers une image déformée, en fait, par le cinéma. Et c'est ce que ça veut dire, effectivement, un peu, ce truc de scénario, c'est-à-dire qu'ils se comprennent à travers ça. Mais sauf que, humainement parlant, je trouve que ça n'a vraiment très peu de sens par rapport à la souffrance qu'elle a eue, par rapport à tout ce qu'elle a dû traverser pour réussir à se sortir de ce père qui était un peu une espèce d'ogre, tu vois. Et c'est ça qui m'a un peu gêné, voilà, enfin, qui m'a même embêté, oui.
Vous écoutez Allegre FM 93.1.
Moi, j'aimerais dire quelques mots sur un film chinois qui s'appelle Escape from the 21st Century, qui est un film de Yang Li que je ne connaissais pas, qui a fait deux ou trois longs métrages avant, et qui est un joyeux bordel. J'ai énormément aimé la fin. Alors, c'est extrêmement compliqué à expliquer, mais en gros, c'est l'histoire de jeunes adolescents chinois qui, dans une petite bagarre de rue, on va dire ça comme ça, bascule dans le vide et chute dans l'eau sur laquelle il y a eu une espèce de l'essence, en gros, qui s'est retrouvée dans ils ont renversé des bidons de produits chimiques qui donc se retrouvent dans cette flaque, enfin dans cette eau dans laquelle ils chutent. Et ça leur permet ensuite, en éternuant, n'est-ce pas, de voyager dans le futur. Et de se projeter sur qui ils sont dans le futur. Et puis, on est dans un futur complètement chaotique. Et donc, ils sont à la fois dans un présent où ce sont des jeunes enfants et dans un futur où ce sont des adultes qui doivent sauver le monde. Il y a comme ça une espèce de ping-pong et de montage parallèle entre les deux. Et alors, c'est un film complètement chaotique en termes de narration, très bordélique, mais visuellement fou, mais alors vraiment fou, d'une richesse en termes de composition des cadres, en termes de rythme, en termes de chef opérateur. C'est un peu clipesque, c'est un peu pub, mais ça n'empêche que c'est vraiment une découverte et les 40-50 dernières minutes sont dingues. En revanche, il faut accepter de ne pas tout comprendre. Est-ce que tu as entendu parler de ce film ?
Bah ouais, j'avais hyper envie de le voir, mais il était dispo absolument nulle part autour de chez moi. Et puis surtout, moi, j'ai la carte pâtée.
Ah ouais.
Et j'avoue, parce que j'habite à côté d'environ 5 cinémas qui prennent la carte pâtée, donc c'était plus simple pour moi d'avoir ça. Et du coup, bien sûr, il passait que dans les UGC et tout ça, et j'ai fait un peu la flemme. Mais en vrai, j'aurais bien aimé, mais même il passait dans très peu de salles et les horaires. Enfin bon, bref, en tout cas, j'aurais trop kiffé le voir.
Bah, je l'ai vu en plus tardivement, ça m'a fait genre, tu sais, à la séance de 22h, quoi, ça m'a fait rentrer une espèce de trip un peu bizarre. C'est étonnant, hein, vraiment, et je trouve que c'est un film pour le coup à voir en salle, mais et puis surtout, je pense à revoir aussi. Enfin, en tout cas, dans le genre film peu distribué, j'en ai vu un autre. Thaïlandais cette fois-ci, et je connais ton amour du cinéma thaïlandais, notamment de Citizen Dog.
Oui, j'adore.
Que nous aimons beaucoup. Donc là, c'est un autre réalisateur, c'est son premier long métrage. Le réalisateur s'appelle Ratchapum Boon Bun Chachok, si je n'écorche pas son nom. Et ça s'appelle Useful Ghost. Et alors là, découverte aussi, beaucoup plus lent. Un film dont je vais quand même lire en 2 minutes le synopsis, parce que c'est extrêmement compliqué à expliquer. Alors, c'est vraiment suite au décès de sa femme, Marsh sombre dans le deuil. Mais le fantôme de Nat, donc sa femme, revient bientôt à ses côtés en prenant possession d'un aspirateur. La famille du jeune homme réfractaire à cette relation va tout faire pour y mettre fin. Alors, c'est vachement intéressant parce que ça parle en fait de la présence des êtres chers, des fantômes, bons ou mauvais, qui hantent des objets en fait en Thaïlande. Hein. Et donc là, on se retrouve vraiment dans une relation entre un homme et un aspirateur. Et puis, il y a d'autres fantômes, évidemment, qui rentrent dans le jeu. C'est à la fois une comédie pendant une bonne partie du film. Et puis, soudainement, il faut un petit peu s'accrocher en termes de rythme, quand même. C'est un rythme très différent de ce dont on a l'habitude. Et puis, soudainement, le film bascule dans une dénonciation politique d'un massacre qui a eu lieu en Thaïlande, si je ne dis pas de bêtises, en 2010. Et alors là, ça devient un film d'une violence dans son propos. C'est très terre à terre, très premier degré. Voilà, on parle au gouvernement thaïlandais en s'exprimant directement à lui. Tu vois, on l'apostrophe et c'est sidérant. Et donc, on part vraiment d'un conte thaïlandais entre un homme qui a une relation avec le fantôme de sa femme qui est réincarné dans un aspirateur à une fresque politique, franchement, comme rarement j'en ai vu dans la teneur du propos. Donc ça, vraiment, je vous engage à aller le voir, Useful Ghost, mais c'est pareil, il passe dans très peu de salles, je ne sais pas combien de temps, mais c'est un film vraiment intéressant.
Ouais, je ne sais pas s'il passe encore, mais pareil, j'avais hyper envie de le voir, ça avait l'air vraiment... j'ai entendu beaucoup de bien, en tout cas, de ce film-là, et j'avoue, c'est quand même pas si fréquent qu'on ait des films thaïlandais qui passent, donc c'est vraiment l'occasion de voir vraiment quelque chose de... Enfin, un cinéma qui est vraiment différent... de toute façon, chaque cinéma asiatique est différent, mais les Thaïlandais, c'est quand même, ouais. On en voit quand même très très peu, quoi.
Et puis ils ont beaucoup, enfin il y a tout le cinéma merci.
Happy
Chapong, ouais, c'était cool, mais voilà, qui est Palme d'Or pour Oncle Bunmi, celui qui se souvient de ses vies antérieures, je crois que c'est ça le titre entier. Mais il y a aussi vraiment tout un cinéma peut-être un peu moins auteur, ou en tout cas un peu plus populaire, si je peux le présenter comme ça, et qui est d'une originalité dans les idées. Enfin, Citizen Dog, c'est une comédie romantique assez extraordinaire.
Je le dis, visite Sasa Natiang.
Voilà, qui a fait Les Larmes du Tigre Noir, qui est bien aussi. Mais Citizen Dog, ouais. Quelle année ?
2004, Citizen Dog.
Moi, je ne sais pas ce que tu en penses, mais je trouve que c'est une bonne entrée en matière pour découvrir le cinéma thaï, disons, l'autre versant. Après, ouais, c'était cool.
Ah ouais, non, mais c'est vraiment très opposé, là. Citizen Dog, c'est en même temps hyper fantasy, comédie romantique. C'est vraiment... c'est vraiment étonnant. C'est vraiment... C'est très plaisant à regarder, je trouve.
Ouais, carrément.
Franchement, ouais.
Et ça n'avait pas vieilli, en vrai. Je l'ai revu... Enfin, je l'ai découvert il y a quelques années. Il avait déjà 20 ans, quoi, le film, ou 18, 17 ans. Et franchement, ça tient vraiment la route.
Ouais, j'adore. Le morceau de fin est absolument génial, avec un groupe d'aveugles. Je sais pas si t'en rappelles.
Sur la décharge.
Ouais, exactement. C'est trouve vraiment ce film est vraiment good vibe, quoi. Il y a un truc, tu sors de là, mais vraiment t'es content de la vie, quoi. T'as envie de faire du scooter en Thaïlande.
Ouais, je suis assez...
c'est vraiment chouette. Bon, bah après, Thomas, c'est à moi de passer sur le billard pour un peu les films que j'ai vus. Alors moi, j'ai vu des films un peu moins télo, on va dire. J'aurais bien aimé voir ce que t'as vu, Thomas, mais malheureusement...
Escape, c'est pas très intello, mais très, 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 très...
Non, mais bon,
comment on dit, entertainment.
Ouais, mais ça a l'air plus intéressant que, par exemple, Superman ou Les 4 Fantastiques. Enfin, je ne veux pas, bien sûr, critiquer, parce que j'ai beaucoup aimé ces films-là, par ailleurs. Mais, on va dire, une autre expérience, peut-être un chouïa plus intéressante, quoi. Mais non, moi, j'avais juste envie de vous parler un peu de Weapons. Je ne sais même plus le titre, Évanoui, en français.
Par le réalisateur de Barbarian.
De Barbarian, qui était vraiment très très cool, Zach Cregger, qui était Barbarian, c'était vraiment un super film, structuré vraiment, enfin assez étonnant dans sa structure. Et il va faire un peu la même chose dans Weapons, qui parle en fait d'enfants qui, à une nuit, vont s'enfuir de chez eux en courant pour ne jamais revenir. Et on va suivre plusieurs personnages pour essayer de comprendre ce qui s'est passé, pour voir un peu comment fonctionne la petite ville qui était bien sage et qui finalement tombe un peu dans les ténèbres. Et j'ai entendu beaucoup, beaucoup de bien de ce film, donc forcément j'avais un peu envie de le voir. J'avais envie d'en parler aujourd'hui parce que peut-être que, comme moi, certains l'ont apprécié, mais sans plus, j'ai envie de dire. Je trouve que le film est très bien dans sa grande majorité, mais les 40 dernières minutes, vraiment, où en fait le réalisateur va un peu lever le voile sur tout le mystère, marche beaucoup moins bien. Alors je sais que beaucoup de gens aimaient ça, mais de mon côté, je trouve que là où le film était vraiment dans sa première grande partie vraiment superbe, dans l'ambiance, dans le glauque, et surtout sans en faire trop, dans le sens où il a une mise en scène que je trouve assez lente, avec des plans assez larges, parfois aussi, pour vraiment te montrer la lenteur d'une créature, d'un monstre ou d'un truc flippant qui va arriver. Et il ose faire du statique, même de vraiment de poser sa caméra, il la laisse,
Et en fait, on voit ce qui se passe dans le décor, on voit et il y a quelque chose d'assez terrifiant. Il y a aussi des séquences de cauchemars qui sont vraiment très bien foutues avec des jumpscares, mais qui sont pas trop appuyés, mais qui marchent juste ce qu'il faut pour te mettre vraiment dans une angoisse, vraiment. Donc, il arrive vraiment à te tenir en haleine pendant vraiment une grande partie du film. Et quand la révélation, un peu du pourquoi, du comment, eh bien, pour ma part, il y a eu vraiment une grande déception de ce pourquoi en fait les enfants ont disparu et de comment ça s'est passé. Il y a toute une explication, on va dire, mais qui, pour moi, en fait, est presque un abandon du postulat de départ qu'il avait, qui était de dire les enfants disparaissent et ne reviendront jamais, en fait. Il y a quelque chose un peu d'abyssal, de terrifiant, et de donner comme ça un peu trop vite la clé du mystère, ça gâche un peu le reste du film et le climax du film, qui est assez cool au demeurant. Donc, je ne suis pas sûr d'avoir vu un film exceptionnel, comme certains ont pu le dire. Par contre, il est vrai que c'est solide par endroits et malheureusement un peu plus bancal à d'autres moments. Et je crois que du coup, je serais plus enclin à conseiller un film comme Barbarian, qui je trouve se tient mieux dans sa construction de personnages et dans les multiples personnages qu'il y a aussi également, et qui vraiment arrive à être à la fois un peu débile et en même temps un peu flippant et en même temps assez surprenant. Je crois qu'en tout cas, oui, je conseillerais plutôt celui-là, comme un bon vieux vidéoclub, tu vois, parce que je trouve que Weapon, c'est un peu ce côté-là. Le retour à Paris est parfois difficile. On dit au revoir aux vacances et bonjour à la grisaille parisienne et aux citadins aigris. À la ville qui nous presse pour entrer dans les métros blindés, coincés entre un costard cravate qui cocotte et un ado rebelle qui a oublié de se laver. L'agressivité de la grande ville. Le bruit, la circulation, la pollution, les manifestations. Bref, on a envie de retourner très vite en vacances ou simplement être en terrasse et fumer une cigarette en snobant les touristes. Lire un livre de philosophie qu'on comprend à moitié et regarder les images des infos qu'on ne comprend que trop bien. Mais pour le moment, c'est un tout petit peu moins notre problème. Mais bon, tout ça c'est fini. On range le barda dans une petite boîte avec les souvenirs et hop, on jette ça sous le lit. Adios et à dans un an. Alors en attendant, tout ce qu'on peut faire, c'est retrouver les copains et les copines le soir. Faire des plaisanteries qu'on n'oserait pas dire à haute voix. Parler train-train quotidien, piste cyclable et vélo électrique. Trouver une terrasse avec encore un tout petit peu de soleil. Et puis surtout, surtout, faire la fête. La fête, boire des coups jusqu'à pas d'heure. Les voisins n'en pouvant plus, nous jetant de l'eau, des œufs, alors qu'ils savaient très bien qu'ils habiteraient au-dessus d'un bar. « Wow, allez, descends !» Qu'on ferait tous ensemble avec des inconnus à la mine confite et à l'esprit de travers. Et puis le lendemain matin, on aurait déjà tout oublié. Alors oui, la vie, c'est dur. On a parfois mal au crâne et on se dit que cette soirée jeu de société a vraiment dérapé. On se demande comment on est passé d'une partie de Scopa à se retrouver dans un bar à Châtelet, ouvert toute la nuit, et à moins 1000 euros sur mon compte en banque avec, dans ma poche arrière, une carte d'un strip club de Pigalle. Et puis d'un coup, on a un flash de toute la soirée. Elle passe comme ça, ça défile. Et puis au final, on se dit que on s'est quand même bien marré. Alors je crois qu'au fond, on ne passe pas une si mauvaise rentrée. Et puisque la fête, c'est peut-être la seule chose qui peut nous sauver de cette morne rentrée, je vous propose aujourd'hui deux morceaux qui me font penser à tout ça, pour gratter encore un peu de lumière avant l'automne. Margaritaville de Jimmy Buffett et Georgia in a Jug de Johnny Paycheck.
Vous écoutez Allegre FM 93.1. Nibbling on sponge cake, watching the sun bake, all of those tourists covered with oil, strumming my six string on my front porch swing, smell those shrimp they're beginning to boil. Wasting away again in Margaritaville, searching for my lost sugar salt. Some people claim that there's a woman to blame, but I know it's nobody's fault.
nothing to show but this brand new tattoo. But it's a real beauty, a Mexican cutie. How it got here, I haven't a clue. Wasting away again in Margaritaville, searching for my lost shaker of salt. Some people claim that there's a woman to blame. Now I think, hell, it could be my fault. Stepped on a pop top, cut my heel, had to cruise on back home. But there's booze in the blender, and soon it will render that frozen concoction that helps me hang on. Wasting away.
Mason jars on the dresser filled with dollars and quarters, saving them for our trip around the world. But now you've changed your tune, there'll be no honeymoon. So tonight I'm going there without you, girl. I'm going down to Mexico in a glass of tequila. Going down to Puerto Rico in a bottle of rum. Going out to Honolulu in a Mai Tai bus. Then I'm coming back home to Georgia in a jug. We'll never ride that bus to Mexico City, that's a pity. We'll never sail our ship into old San Juan. You'll never walk with me on the beach at Waikiki. And we'll never share that brick suburban home. Today I'm taking that money out of the jar. Tonight I'll buy my ticket at the corner bar. I'm going down to Mexico in a glass of tequila. Going down to Puerto Rico in a bottle of rum. jugs.
Et vous êtes sur Aligre FM 93.1, Popcorn et Banjo, la seule émission de cinéma qui diffuse exclusivement de la musique country. Alors, je sais aussi qu'on voulait revenir sur Sirat, hein, qui est le nouveau film de Oliver Lax, qui est un cinéaste qui est un peu explosé avec ce film, bien que je crois qu'il a été à Cannes dans à peu près tous ses films, son quatrième. Et il a été dans des sélections parallèles, il me semble. Donc, c'est un enfant de Cannes, en fait. Hein. Après, moi, je ne le connaissais pas. Est-ce que tu le connaissais ?
Du tout.
Et là, soudainement, tout le monde parle de lui, avec donc Sirat, hein. Sirat, l'histoire d'un père qui cherche avec un père et son fils qui cherche sa fille et donc la grande sœur du petit garçon. Et donc ils imaginent qu'elle est partie faire des rêves parties dans le désert marocain. Donc eux se retrouvent en plein milieu de cet univers qu'ils ne connaissent pas. Et puis de cette traque s'ensuit tout un film d'errance. Faut savoir que Sirat, ça veut dire le pont entre le paradis et l'enfer, et que le film s'ouvre donc sur cette citation, hein, et que c'est donc un pont qui fait l'épaisseur d'un cheveu et qui est tranchant comme une épée. À partir de là, Charles, est-ce que tu as envie de nous dire un petit peu ce que tu en as pensé? Tu es plutôt à contre-courant par rapport à la vie générale du film. Donc voilà, la parole est à toi.
Oui. Je peux avoir beaucoup de choses à dire sur ce film. Déjà, je peux dire premièrement que je l'ai vraiment trouvé extrêmement mauvais. Ce qui est vraiment, effectivement, va à l'encontre de tout ce qu'on a pu entendre, vu qu'à chaque fois, on voit les films un peu plus tard, pour en parler un peu plus posément aussi. Et moi, j'ai un gros problème avec le film. Je veux bien croire que ce film se veut une expérience sensorielle, vraiment audition, visuelle, etc. Mais,
parce qu'on est plongé dans ses rêves parties quand même, hein, dans le désert.
Ouais, dans les 10 premières minutes. Et sauf que le problème que j'ai, c'est que déjà, alors que je pense que la musique a été faite en post-production, mais déjà les gens ne dansent pas en rythme. Donc il y a un vrai problème pour moi de, juste dès le début, les gens ne dansent même pas sur le son, supposément qu'ils écoutent. Donc il y a un premier problème, donc je savais même pas si c'était fait exprès ou pas. Et après vient tout de suite après un père et son fils dans une rêve partie. Tu te dis, mais qu'est-ce que fout ce gamin là?
Alors moi, ça, j'aime bien.
Moi je ne comprends même pas. Et comme en plus au début ça veut théoriquement raconter une histoire, et j'ai un vrai problème avec le scénario qui, moi, j'ai l'impression que le gars full spoil ou pas?
Ouais, non, là on est obligé de spoiler.
Allez, full spoil. Donc le gamin est juste là pour, en fait, se faire tuer au bout d'une demi-heure de film. Il n'a aucune raison d'être là. À part peut-être un moment, on dit à la radio, c'est la Troisième Guerre mondiale, mais tu fais, est-ce que le gamin, il pourrait être ailleurs qu'au Maroc et ailleurs qu'en Espagne ou ailleurs que je sais pas où, du coup, pour se protéger de ça? Qu'est-ce que le père vient faire là, si c'est la Troisième Guerre mondiale? Est-ce qu'il veut sauver ça? Il y a tout un schmilblick qui, en fait, n'a aucun sens, parce que le mec, il jette des cailloux un peu partout, mais sans savoir exactement où frapper. Et du coup, j'ai un vrai problème de structure, en fait, du film, parce que déjà, je trouve que l'expérience est assez ratée.
En termes sensoriels?
En termes sensoriels, oui. Je trouve que la musique n'est pas... En tout cas, pourtant, je l'ai vu dans un bon cinéma, j'étais bien au milieu et tout, j'ai fait dans les bonnes conditions. Et je trouve que la mise en scène n'est pas incroyable. Je ne suis pas sûr d'avoir une séquence qui m'a même un peu troublé. J'ai l'impression que le film se veut expérimental, mais il le sera toujours moins bien structuré qu'un Lynch, ou même, tu vois, en fait, je trouve que Zabriskie Point a presque plus de sensorialité quand on parle de désert, quand on parle de
ça part. Après, là, tu cites deux énormes cinéastes, Antonioni et David Lynch, mais oui.
Sauf que quand tu regardes le film, alors peut-être qu'après, ça veut tout rien dire de dire qu'un film est prétentieux, mais j'ai vraiment l'impression que le gars essaye de poser un rythme et de poser un truc un peu, en tout cas d'un cinéma un peu alternatif et un peu expérimental, et j'ai l'impression qu'il rate absolument tous ses effets, jusqu'à même mettre ses personnages dans un champ de mine et qu'ils explosent. Et vraiment, mais moi déjà, quand le gamin est mort, je me suis marré, ce qui est quand même pas normal, à preuve du contraire. Et quand la meuf danse, parce que en fait le gamin meurt, tout le monde est triste. Qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent des champignons dans le désert pour évacuer. Tu fais, oh non. Enfin, je trouve qu'il y a comme ça tout un truc un peu poseur, en fait. J'ai l'impression de voir un presque une écriture très adolescente pour pas grand chose, et la mise en scène ne m'aide pas beaucoup à me dire ok, bon, bah tant pis, je fais fi du scénario pour me plonger dans un univers, et même cet univers là n'arrive pas en tout cas à m'atteindre, ce qui m'a vraiment beaucoup gêné moi pendant ma séance.
Bah, moi, ce que je note dans ce que tu dis, c'est amusant. La première chose que tu dis, c'est que l'enfant n'a rien à faire dans ce film. Et moi, au départ, c'est ce qui m'attache au film. Je me dis, on a un père qui est joué par Sergi Lopez, qui est un acteur que j'adore, soit dit en passant, qui emmène un enfant qui a, je sais pas, 8-10 ans dans des rêves partis dans le Maroc. Il y a quelque chose, il y a un départ d'une histoire. Pourquoi ils sont là? Pourquoi ce père trimballe son fils dans un lieu où effectivement il n'a rien à faire là? Et d'ailleurs, je trouve qu'il y a une scène plutôt juste où ils ont un petit chien aussi avec eux, et le chien se retrouve intoxiqué au LSD ou au champi, ou voilà, bon, parce qu'il bouffe une merde qu'a chié un des mecs qui prenait du LSD. Et ça aussi, ça montre à quel point il y a un décalage entre ce que fait cet enfant et son chien dans ce lieu où il n'a rien à faire là. Pareil, à un moment, ils sont en voiture et le petit garçon dit à son père qu'il trouve comment on appelle les mecs qui font des rêves parties? Tuffers, quoi.
Pardon, attends pour moi.
Qu'il trouve tous ces tuffers cool. Et le père le regarde et il dit rien, mais Sergi Lopez regarde son fils et on comprend que il n'est pas affolé, mais qu'il se dit qu'il y a une erreur, quoi. En gros, les mecs, on vient de faire des conneries en bagnole dans le désert. Et en fait,
ils ont fui les militaires.
Ils fuient les militaires qui leur demandent de quitter la rêve partie, etc. Donc, en vrai, moi, je trouve qu'il y a vraiment une histoire. Et je ne suis pas forcément dans le film à ce moment-là, mais je crois dans ce duo, quoi. Et en revanche, là où je suis perdu, c'est effectivement à la mort du fils, qui tombe un peu comme un cheveu sur la soupe. C'est évidemment voulu comme un effet narratif de cinéma choquant. D'ailleurs, j'ai entendu des gens dans la salle être choqués.
C'est vrai?
Ouais, vraiment.
Bah, en même temps, moi, j'étais vraiment le seul à vraiment... J'ai hurlé de rire, mec. Mais vraiment... j'ai trouvé ça vraiment particulièrement stupide.
En tout cas, moi,
mise en scène.
Ça me perd un peu à cet endroit-là parce que... Ah non, moi, je trouve ça bien mis en scène, pour le coup. Le camion qui bascule, enfin, la bagnole, visuellement, moi, j'y crois. Ah, je suis pas d'accord. Pour le coup, je suis pas d'accord. Mais en tout cas, il me perd à ce niveau-là, au niveau narratif. C'est-à-dire qu'effectivement, je crois plus vraiment dans ce qui se passe ensuite. Et pour le coup, toute l'avant-dernière séquence dans le champ de mine, je trouve qu'elle aurait été... assez dingue si justement il y avait encore le gamin et si en fait on se disait ce qu'on se dit depuis le début, que cet enfant n'a rien à faire dans ce lieu et que tout d'un coup Sergi Lopez est avec son enfant de 10 piges dans les bras ou à côté de lui et qu'en fait chaque pas ça met en danger directement la vie de cet enfant. Et en fin de compte, c'est un peu ce que nous dit le réal quand il tue l'enfant au bout de 30 minutes, mais pour moi c'est beaucoup trop rapide. Et c'est là où j'ai été un peu perdu, enfin même complètement perdu, quoi. En revanche, j'ai un truc à dire sur la dernière scène du film, donc la maxi spoil, mais je le dis quand même parce que je l'ai pas vu, moi, et c'est un ami à moi qui me l'a notifié. Le dernier plan du film, c'est vraiment Sergi Lopez et les survivants de ce champ de mine sur le toit d'un train.
Alors, c'est pas les survivants du champ de mine, c'est des... On sait pas trop qui sont ces gens.
Non, mais il y a aussi les survivants, ils sont deux à avoir sauvé. Et ils sont sur le toit d'un train avec des locaux mauritaniens. Donc ça, c'est un train qui traverse le désert de Mauritanie, hein, qui est un train, à titre personnel, que j'ai toujours eu envie de prendre. Mais bon, voilà. Et en fait, ils sont assis sur le toit de ce train et on a un montage de plusieurs plans serrés que je trouve pour le coup très beau sur ces visages. Et puis, il y a un plan des rails du train et le film s'arrête là-dessus. Et en fait, moi, je n'avais pas remarqué. Donc, attention, je vais vraiment donner en tout cas une fin du film. Et à un moment, on ne voit plus les rails du train dans ce plan. Et je ne sais pas si tu l'as vu ça. Et c'est mon pote qui m'a dit, mais Thomas, ils vont dérailler.
Je pense que je levais les yeux au ciel à ce moment-là.
Ben, ils vont dérailler, ils vont tous mourir. Et en fait, c'est vrai que j'aime bien cette fin-là et l'idée que, dès le départ, ils sont sur donc, ce Sirat, ce pont, et ils vont tous mourir à un moment différent. Et j'aime bien le côté nihiliste que ça donne au film, et je ne vais pas vous mentir, ça me donne presque envie d'y retourner.
Mais on ne voit plus les rails parce qu'ils sont cassés, ou on voit plus les rails parce qu'il y a le désert, il y a de la brume.
Mais je ne peux pas te répondre parce que je n'ai pas compris ce... Mais je crois que...
Parce que ça se trouve, c'est juste qu'on ne voit rien et on ne sait pas...
En tout cas, l'analyse de mon pote, c'est qu'ils vont dérailler. Ce qui n'est pas l'analyse d'une amie à moi, qui a aussi vu le film, qu'elle a beaucoup aimé aussi. et qui ne l'a pas vu non plus. Mais donc, tu vois, c'est un film qui est ouvert à plein de choses. Après, est-ce qu'il est trop ouvert à l'interprétation parce qu'il y a moins de lignes directrices ? Ça, ça peut aussi être un problème. Je ne sais pas.
Vous écoutez Allegre FM 93.1.
Je pense que c'est jamais un problème. Après, c'est tout un truc de aussi comment tu vois la critique d'un film. De toute façon, parfois, moins un film parle de quelque chose, entre guillemets, plus tu as une libre interprétation et plus c'est facile aussi de pouvoir mettre tout ce que tu veux dedans. Et donc, dans ce cas, c'est ça la liberté de critiquer ce genre de film. C'est-à-dire que tu peux mettre tout ton émotionnel et ton bagage intellectuel dedans parce que justement, non pas que le film soit creux, mais il laisse libre interprétation à beaucoup de choses. Moi, je crois sincèrement que le réalisateur n'est ni liste ni quoi que ce soit. Je pense sincèrement que c'est mon ressenti très personnel, mais n'a pas grand-chose à dire finalement à travers ses personnages. J'ai l'impression qu'en fait, le seul moyen qu'il a pour essayer de les faire vivre, c'est de les faire souffrir. Et il y a cette espèce de vide presque intellectuel de en fait le seul moyen qu'on a pour en fait comprendre comment marche une fourmilière, c'est de brûler les formes et de les voir courir partout. Et je suis pas sûr que ce soit vraiment ça, de réfléchir à comment fonctionnent des personnages et comment fonctionne sa réalité en fait à travers donc ce peuple nomade presque de Tuffer, Sergi Lopez qui essaie de retrouver sa fille, mais finalement en fait on le laisse tomber, finalement c'est pas ça important. Et donc, en fait, on se dit, mais qu'est-ce qui est important dans ton film ? Et peut-être que c'est là où la libre interprétation, arrive à ce moment-là, mais et peut-être que c'est mon problème aussi, que j'aime me rattacher à des choses. Mais du coup, je n'ai...
Ou en tout cas, des histoires narrativement linéaires.
Oui,
enfin, ouais, des histoires narrativement vraiment
bien sûr, mais...
construites, quoi.
Exactement, mais c'est vrai que je... Là, c'est vrai que ce film, c'est un peu ma limite, où j'ai l'impression que c'est presque vraiment... Enfin, sincèrement, pour moi, c'est quand même un des pires films que j'ai vu au ciné cette année parce que justement, j'ai l'impression de voir un grand vide intellectuel quand même en global sur ce que ça raconte et comment ça le raconte.
Je vous le disais en début d'émission, il y a maintenant dans cette grande terre des DVD et des Blu-ray un événement, et oui, puisque vient de ressortir dans une magnifique nouvelle édition Café Flèche, un film rare, un film pour adultes, hein, donc comprendre pornographique, mais un film très très rare de Stephen Sayadian. Alors ce film, il est réalisé en 1980, c'est un peu obscur, il y a marqué 80 sur le Blu-ray Carlotta et 82 sur IMDb, on va dire que c'est 80. Ou 82 sur Wikipédia, mais moi je fais plutôt confiance à Carlotta pour ça. C'est un film qui fait partie des grands films X, hein, comme par exemple Derrière la porte verte des frères Mitchell, hein, qui était en 76. Et d'ailleurs, les films ont des points communs dans leur rapport visuel. Après, à mon sens, c'est pas un film qui a la résonance des films porno de Radley Metzger, mais lui, c'est vraiment celui qu'on appelait le Orson Welles du porn, donc on fait pas beaucoup mieux. Si vous devez en voir un, regardez The Image. Voilà. Mais ça reste un film impactant. Je vais vous le pitcher, et puis après, tu vas nous dire ce que t'en penses.
Avec plaisir.
Alors, je vais être très sincère, je lis vraiment la quatrième de Carlotta, parce que je la trouve plutôt très bien foutue. Dans un futur post-apocalyptique, l'humanité irradiée s'est divisée en deux catégories, les négatifs sexuels, rendus malades par tout contact érotique, et les rares positifs, encore capables de faire l'amour. Au Café Flèche, un mystérieux cabaret, les positifs sont forcés de se produire en spectacle sous la houlette de Max, maître de cérémonie sarcastique, en attendant l'arrivée d'une nouvelle recrue prometteuse, la star Johnny Rico. C'est donc un film qui parle de gens qui ne peuvent plus avoir de rapport sexuel, à part une certaine partie de la population, et cette partie-là est donc forcée de coucher devant ceux qui ne peuvent plus avoir de rapport sexuel. Quand même une idée assez extraordinaire.
De mon côté, on l'avait vu il y a quelques années avec Thomas, et là il est ressorti dans un très beau coffret chez Carlotta, donc. Et j'avoue, alors Sirat, voilà, trop intellectuel ou pas assez, je ne sais pas, ça se trouve, je suis juste bête. Mais en tout cas, là, j'ai tout compris. Si ça peut rassurer les gens, j'ai tout compris Café Flèche. Et vraiment, pour moi, c'est en fait, c'est fou comment dans la cinéphilie, on peut arriver à regarder du porno sérieusement, je trouve. C'est assez bizarre dit comme ça, et personne ne croit quand on dit que c'est vraiment pour le travail. ou pour le...
Pour le travail, pour le nourriture de l'esprit aussi. Mais non, Café Flash, franchement, c'est plein d'idées, c'est hyper drôle. Une espèce de... Je sais pas, il y a un côté... En fait, l'intro du film, c'est une espèce de post-apo à la Mad Max pour finir dans un truc un peu à la Interzone... Le festin nu de Cronenberg, c'est un mélange en fait de personnages complètement baroques, déguisés, avec en même temps des scènes de cul, mais qui en fait vous donnent pas du tout envie de faire quoi que ce soit, parce que vraiment...
C'est le principe du film en fait, j'ai lu là ça, je sais pas si tu savais, mais Saïdian voulait faire un espèce d'anti-film pornographique, et il voulait un peu aller dans les clichés du porno, et évidemment les acteurs prennent pas du tout leur pied, en tout cas visuellement, sur leur visage. Et c'est aussi pour dénoncer, je le dis quand même, parce que c'est important, le sida et dans les années 80 et le ravage de la sexualité, en fait, le ravage de cette maladie MST quoi, sur la sexualité et à quel point ça a un peu refroidi l'atmosphère des années 70 et du free love, quoi, et où tout le monde faisait l'amour joyeusement, arrive le sida et la peur, en fait. Et donc, Café Flèche parle aussi de ça.
Bah, tu vois, ouais, ça, je savais pas du tout. Mais... Même pour être honnête, c'est pas forcément ce que je reçois du film non plus.
Ouais. Donc mais c'est intéressant quand t'as l'info en fait.
Bah non, mais c'est bien de pouvoir l'intellectualiser comme ça en tout cas. Et ça montre bien que quand même, malgré le fait un peu trivial que ce soit un film X, on peut quand même parfois, ça arrive que il y ait des auteurs, comme tu disais, comme Metzger. Comme Claude Bernard Aubert, que tu connaissais très bien. Non, mais il y a des comme ça, des réalisateurs qui ont fait...
Signé Bertrand Barry, je
crois. Oui, qui a quand même fait quand même, ce film avec Gabin, qui est super, comment il s'appelle déjà ?
L'affaire Dominici.
L'affaire Dominici, merci. Donc c'est comme ça, c'est aussi une époque plus fluide, je pense, entre...
On pouvait passer de l'un à l'autre.
Exactement, dans ce cinéma traditionnel, cinéma X, où quand même il y avait... Du coup, c'est pas juste des tocards ou des mecs qui arrivent pas à faire de films, je sais pas quoi, qui font des trucs sales. Non, c'est vraiment parfois des grands réalisateurs, des très bons réalisateurs, qui... passe comme ça pour essayer quoi, ou pour avoir même une carrière parfois. Et Saïdian, il a vraiment ce truc là dans Café Flèche de c'est vrai que le film, il est, enfin, la première scène de cul par exemple, enfin la première scène de fesses pardon, c'est clairement un gars déguisé en rat avec un vieux museau,
c'est très spécial,
c'est chelou, mais en tout cas on l'avait vu il y a des années, je me rappelle, on était tous les deux. Donc, autant vous dire que c'était un peu bizarre. On se connaissait bien déjà, mais quand même, il y avait une espèce de petite gêne au début. Et en fait, plus le film est passé, plus on était bien. Mais en tout cas, c'est grâce à toi que j'ai découvert Saïdian, quoi.
Ben ouais, non, mais cinéaste étonnant, qui était directeur artistique de, je veux pas dire de bêtises, donc en tout cas de Hustler ou de Playboy, enfin d'un magazine comme ça, de sexe, mais un mec assez important. Et puis, voilà, qui sort son film, qui est un huis clos aussi, quasiment exclusif, hein. Et c'est intéressant parce que, en fait, c'est vraiment chaque scène porno qui ouvre sur un univers différent. Et le spectateur, c'est-à-dire nous, on est un peu à la place des spectateurs du cabaret. C'est un film très, très étonnant qui joue sur beaucoup de niveaux et qui n'a pas vieilli aussi, vraiment. Je crois qu'on était assez d'accord là-dessus. Donc, une découverte vraiment intéressante, rare et dans des conditions. Ça, c'est aussi notre époque où on peut découvrir des films. En fait, c'est comme le marché du DVD s'effondre. Il naît un espèce d'autre marché qui fait appel que un peu à une cinéphilie de niche. Et donc, tout d'un coup, sortent des films. Jamais on aurait imaginé que ce film sortirait dans des éditions comme ça. Ouais. Et en fin de compte, il y a des pléthores de bonus, une remasterisation de dingue. C'est génial.
Je sais pas si ça s'entend. J'ai quand même le Blu-ray 4K.
Ultra HD, non mais c'est de la folie.
De Café Flash, et c'est vrai que c'est le truc... Toi, tu me l'avais montré, je me demande si c'était pas, honnête, en DVD rip ou un truc comme ça.
On va le dire, c'était un rip.
Mais on était jeunes et fougueux à l'époque et on n'avait pas beaucoup d'argent. Et franchement, c'est vrai que comme tu dis, c'est lunaire d'avoir un 4K de ce film-là. J'aurais jamais... Le prochain, j'espère, je le dis, je veux que ça soit Mondo Candido.
Ah, j'adore.
Ça, on en parlera un jour. On vous tease le truc, mais un jour, on en parlera. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est étonnant. Mais toi, du coup, comment tu as découvert Saïdian ? Et est-ce que c'est vraiment pour toi un truc un peu fétiche, Café Flèche ? Enfin, pas fétiche, mais est-ce que...
Non, alors, ouais, je comprends.
Tu vois, en vrai, ça m'a un peu marqué de ce qu'on a vu, Café Flèche.
Bah, je comprends ce que tu veux dire. Il a un culte, il y a un culte autour de ce réalisateur. Et effectivement, il était invité à l'Étrange Festival cette année. pour la ressortie de son film. Non, il y a vraiment un culte autour de ce réalisateur. Moi, il me semble très simplement que je l'ai découvert sur des chats, sur Facebook, des gens qui en parlaient. Et j'ai demandé à ce qu'on m'envoie un DVD. J'ai un ami qui m'envoie parfois des rips de films un peu rares. Et puis, j'ai découvert comme ça. Il y avait, comme tu dis, il y avait un fétiche autour de ce film, en fait, un culte. Et oui, c'est un film qui reste. C'est pas pour moi, s'il fallait garder un film X, je garde vraiment The Image, hein, l'esclave de Radley Metzger, qui est éclairé par le chef opérateur de Buñuel et de Jean Renoir, donc, et Jack Baker. Donc, globalement, c'est assez carré, quoi. Mais avec Marie Mendoum, qui est une extraordinairement bonne actrice. C'est pas pour moi le plus grand film dans cette catégorie, mais il est clairement dans les plus intéressants.
Et aussi,
vraiment, c'est vachement bien, quoi, vraiment.
Et aussi, et en plus de ça, donc là, on parle de Café Flash aujourd'hui, mais Carlotta a sorti également le
Docteur Caligari.
Docteur Caligari, exactement.
Qui est un autre film de Sayadian.
Oui, mais qui pour le coup est un film érotique cette fois.
Comique.
Et aussi comique, oui, mais et qui a aussi beaucoup d'idées visuelles quand même très marrantes.
Notamment une scène vraiment marquante.
Oui.
Vraiment. C'est assez étonnant. Visuellement, c'est un mec vraiment, vraiment intéressant, Sayadian. C'est un cinéma qui est riche, en fait, de beaucoup de choses aussi. Surtout à cette époque-là. Docteur Caligari et Café Flèche de Stephen Sayadian, qui sont donc enfin disponibles en 4K Ultra HD chez Carlotta Film. Foncé, avec quand même une priorité pour Café Flèche, hein, je pense que tu es d'accord.
Carrément, pour moi, sans hésiter, Café Flèche. Bon, après, bien sûr, prenez les deux.
Popcorn et Banjo, la 12e, c'est terminé. On se retrouve le mois prochain ? C'est une question.
Ah ! avec plaisir.
Eh bien, avec plaisir aussi pour moi. À très vite ! Ciao, ciao !
Salut !
Vous écoutez Allegre FM 93.1.